Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, l'alpha-mannosidose. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Bénédicte Héron. Docteur Héron, bonjour.
Bonjour.
Docteur Bénédicte Héron, vous êtes neuropédiatre, praticien hospitalier au sein du service de neuropédiatrie de l'hôpital Trousseau à Paris, coordinatrice du centre de référence des maladies lysosomales de la filière G2M, puisque votre service est site coordonnateur, et responsable du groupe des neurolipidoses au sein du COTL, le comité d'évaluation du traitement des maladies lysosomales. Alors, docteur Héron, nous allons débuter notre entretien par une question assez simple et directe. Qu'est-ce que l'alpha-mannosidose ?
Alors, l'alpha-mannosidose, c'est en fait une maladie de surcharge lysosomale. Elle fait partie de ce qu'on appelle les glycoprotéinoses et elle est due à un déficit d'activité enzymatique de l'alpha-D-mannosidase. Donc, c'est une enzyme qui intervient particulièrement sur la dégradation des oligosaccharides et notamment en libérant les résidus mannose avec plusieurs points d'action. Cette enzyme, elle est codée par le gène qui s'appelle MAN2B1, qui est un gène porté par le chromosome 19 et dont les mutations vont être responsables de ce déficit de production ou d'activité de l'enzyme. Alors, c'est une maladie qui est extrêmement rare. C'est parmi les rares, elle fait partie des plus rares. On a d'ailleurs un peu de mal à avoir des chiffres exacts de prévalence. C'est estimé à peu près à 1 pour 1 million de naissances. Donc, vous voyez que c'est vraiment une maladie extrêmement, extrêmement rare. Il y a en tout cas plus de 100 cas publiés, mais ça reste peu important, à peu près entre 130 et 150 histoires de patients atteints de cette maladie qui ont été publiées dans la littérature scientifique.
Et comment survient cette maladie ? Quelle est la physiopathologie de l'alpha-mannosidose ?
Alors, c'est une maladie génétique. Donc, je vous ai expliqué, elle est portée par un gène qui s'appelle MAN2B1. Cette maladie, on dit qu'elle est à transmission autosomique récessive. Donc, le gène qui code pour cette maladie est porté par un autosome, c'est-à-dire un chromosome qui n'est pas un chromosome X ou Y, qui n'est pas un chromosome sexuel. Et puis, d'autre part, elle est transmise lorsque l'enfant ou la personne qui est porteur de mutation de ce gène est porteur de mutation sur les deux exemplaires, les deux allèles qui codent pour ce gène, celui qui vient de son père et celui qui vient de sa mère. Donc les parents eux-mêmes ne sont pas malades, ils sont transmetteurs de la maladie, mais à peu près 25% de leurs enfants, ils ont un risque sur 4 en fait de transmettre cette maladie à leur descendance.
Et d'un point de vue clinique, docteur Héron, quels sont les principaux symptômes rencontrés chez les patients touchés par cette maladie rare ?
Alors, les symptômes sont en fait assez variés, et ce qui peut d'ailleurs rendre difficile ultérieurement le diagnostic, mais ce qui peut être aussi des points d'alerte à différents niveaux, et notamment quand ils vont s'associer. Alors, il y a tout d'abord des signes morphologiques, c'est une maladie de surcharge, et donc on peut voir effectivement au niveau du corps de la personne des signes de cette surcharge, en particulier au niveau osseux. Témoignant d'une dysostose, il peut y avoir un élargissement des articulations, des anomalies au niveau de la colonne vertébrale, une grande taille en tout cas initialement, des déformations au niveau du thorax, un thorax qu'on appelle en carène, et parfois aussi une macrocranie, donc un gros crâne avec des traits du visage qui peuvent être un peu épaissis, ce qu'on appelle aussi un prognathisme. Voilà, donc ce sont des signes de surcharge osseuse, mais il y a aussi des signes de surcharge au niveau des organes, des tissus qu'on appelle mous ou des viscères, donc avec possibilité d'avoir une hépatose splénomégalie qui est en général modérée, mais aussi une grosse langue, des oreilles un petit peu larges, et aussi c'est plutôt chez le tout petit ou dans les formes les plus précoces, des problèmes de hernie inguinale, hernie ombilicale. Parfois, avec la hernie inguinale, s'associe aussi à ce qu'on appelle un hydrocèle, c'est-à-dire un excès de liquide dans les bourses. Donc ça, c'est pour les signes morphologiques. Il y a aussi des signes sensoriels qui vont toucher les organes des sens et en particulier l'audition. Et la surdité est un symptôme, on va dire, quasi constant dans cette maladie. C'est une surdité qui n'est pas forcément néonatale. Enfin, d'ailleurs, elle n'est pas en général pas dépistée par les tests de dépistage qu'on fait de plus en plus souvent et même qu'on doit faire systématiquement à la naissance. C'est une surdité qui va s'installer dans les premières années de vie, une surdité sensorielle. Elle peut aussi être majorée par la répétition d'un affection ORL, d'otite notamment, mais c'est vraiment une surdité sensorielle qui va être responsable de troubles du langage. Donc, le retard de développement du langage est un point d'appel qui peut orienter vers ce problème de surdité, mais c'est aussi un point d'appel vers des troubles cognitifs, des troubles intellectuels. Un enfant qui a du mal à développer son langage, eh bien, peut aussi avoir du mal, en fait, à organiser son langage du fait de troubles intellectuels. Sur le plan sensoriel, il y a plus rarement et peut-être plus tardivement aussi des signes au niveau de l'œil. Il peut s'agir de signes qui vont toucher soit la cornée, avec la possibilité de dépôt cornéen, soit le cristallin, possibilité de cataracte, soit la rétine, avec des signes au niveau de la rétine qu'on voit, que l'ophtalmologiste peut voir lors de son examen. Et à propos de ce retard mental, il y a effectivement aussi des signes qui révèlent une atteinte du système nerveux central, une atteinte du cerveau, outre la déficience intellectuelle ou parfois même la perte de capacité intellectuelle au fur et à mesure de l'évolution. Il peut y avoir aussi des troubles psychiatriques. Troubles psychiatriques avec, par exemple, des hallucinations, voire le développement d'une psychose, mais aussi des problèmes de dépression qui peuvent être assez sévères. Dans cette maladie, il y a des infections bactériennes à répétition favorisées en fait par une certaine forme de déficit immunitaire liée à une altération des fonctions des polynucléaires et également une hypogammaglobulinémie, tout cela pouvant concourir à ces infections ORL ou respiratoires répétées. Les fonctions des polynucléaires qui sont altérées, ça entraîne une modification du géniotactisme et une modification aussi de la phagocytose.
Et le plus souvent, docteur Héron, quelles sont les circonstances de découverte de cette maladie ?
Eh bien, principales circonstances de découverte, finalement, ça va dépendre un petit peu de l'âge, parce que cette maladie, elle peut se révéler de manière assez différente. En fait, il existe un spectre des symptômes, comme je vous l'ai décrit, mais aussi des tableaux cliniques, des présentations cliniques chez les patients, allant des formes présentes très précocement chez les tout petits nourrissons, à des formes qui vont se révéler plus tardivement, bien après l'âge de 10 ans, voire parfois à l'âge adulte. Donc les circonstances de découverte, elles vont dépendre un petit peu aussi de l'âge, finalement. Chez les personnes qui ont moins de 10 ans, eh bien, il y aura les formes du tout petit, où on aura des signes morphologiques assez marqués qui vont ressembler un petit peu à ce qu'on voit dans une maladie de Hurler, une mucopolysaccharidose de type 1. Et ces signes-là, c'est un enfant qui a d'emblée un trouble du développement avec une hypotonie, un retard moteur, des signes morphologiques avec un épaississement des traits qui va en s'accentuant, une viscéromégalie. Des infections respiratoires à répétition. Chez l'enfant un peu plus grand, c'est plutôt la porte d'entrée, en tout cas l'alerte va être sur le langage, c'est-à-dire un enfant qui développe pas bien son langage, soit parce qu'il a une déficience auditive qu'on met en évidence, associée éventuellement déjà à des troubles intellectuels. Donc, chez l'enfant de moins de 10 ans, mais qui dépasse le petit nourrisson, c'est le problème de langage, révélant la déficience auditive, avec les troubles intellectuels qui vont s'y associer, donc la déficience intellectuelle, et souvent des signes morphologiques qui peuvent être assez frustes, mais quand on est un peu alerté sur sa possibilité et attentif à l'examen clinique, on les remarque et ils peuvent être un élément d'orientation particulier vers ce type de maladie et notamment donc vers l'alphamanosidose. Et chez les plus grands, donc après 10 ans, les manifestations, c'est toujours la surdité. C'est un signe qui est quand même extrêmement fréquent dans cette maladie. Mais ça peut être aussi des troubles moteurs, en particulier des difficultés d'équilibre, une ataxie. Et c'est simplement dans l'évolution, c'est rarement révélateur qu'on observera les troubles psychiatriques. Et puis chez ces patients de plus de 10 ans, on peut voir aussi des anomalies osseuses, des anomalies de la trame osseuse, des anomalies de la colonne vertébrale, de la structure aussi des métaphyses, des os longs, qui peuvent être aussi des éléments qui seront peut-être plus radiologiques, même si on peut être alerté par un aspect assez large des articulations par exemple ou des extrémités.
Alors, on arrive à la fin de notre entretien, docteur Héron. On a évoqué les symptômes de cette maladie, notamment chez le jeune enfant et l'enfant un petit peu plus grand. Quelle est l'importance d'un diagnostic précoce de l'alphamanosidose ?
Alors, il y a deux points importants qu'il faut souligner. C'est d'une part, pour l'enfant lui-même, faire un diagnostic précoce, ça veut dire prendre en charge de manière adaptée. Ça veut dire aussi dépister des troubles qu'on n'aurait pas, qui ne saute pas aux yeux, mais par exemple, un enfant petit, ben, on va surveiller quand même son évolution auditive, on va surveiller ses capacités aussi visuelles et adapter la prise en charge à ses capacités intellectuelles, motrices et surveiller aussi les risques infectieux. Donc, il y a toute une part de prise en charge, de prévention pour l'enfant lui-même ou ensuite pour l'adulte dans la compréhension de ses troubles pour y apporter une réponse thérapeutique qui permette donc de l'aider. Alors ensuite, bien sûr, ça posera toute la question des thérapeutiques spécifiques, la disponibilité thérapeutique spécifique et l'importance de mettre en place des thérapies spécifiques précoces. Et puis ensuite, il y a bien sûr un intérêt pour l'entourage. Donc des parents qui ont un premier enfant atteint d'une alpha-manosidose, c'est une maladie génétique. Ça veut dire un conseil génétique, un dépistage éventuellement néonatal ou en tout cas un conseil génétique pour la suite de leur projet de parent. Et puis aussi, ça peut être dans l'exploration d'une famille où il y a un diagnostic qui a été porté, eh bien de comprendre pourquoi telle apparenté a aussi des difficultés qui n'ont jamais été diagnostiquées, dont on n'a jamais rapporté à la cause les problèmes de cette personne apparentée qui peut être dans la fratrie ou bien un cousin dans des familles qui sont consanguines avec la possibilité de récurrence de cette maladie dans la famille plus éloignée. Voilà, donc c'est un intérêt pour la personne elle-même pour adapter sa prise en charge au mieux, mettre en place des thérapeutiques spécifiques dès qu'elles sont disponibles, et ça a un intérêt aussi pour les parents, pour l'entourage, pour la famille.
Et que faire quand on a un doute sur une suspicion d'alpha-manosidose ou d'une maladie de surcharge?
Alors quand on a ce doute, eh bien l'attitude elle est simple, c'est d'aller réaliser les examens biochimiques et génétiques qui permettent le diagnostic. Donc, en particulier, l'élément le plus simple, c'est d'aller regarder s'il n'y a pas dans les urines une excrétion anormale d'oligosaccharides qui sont riches en mannose, donc ces oligosaccharides qui n'ont pas bien été découpés par l'enzyme. Cet examen peut être mis en défaut dans les formes tardive de la maladie quand l'excrétion urinaire est inconstante ou insuffisante pour être bien détectée, mais à ce moment-là, il faut répéter les examens et puis aller directement doser l'activité enzymatique, donc de cette enzyme alpha-manosidase, par un prélèvement qui est en général un prélèvement sanguin, qui peut éventuellement, cette activité peut aussi être dosée sur d'autres tissus, par exemple comme les fibroblastes notamment. Et puis bien sûr, lorsqu'il y a dans une famille une personne qui a été identifiée, qu'on connaît les mutations qui ont été identifiées dans cette famille, on peut aussi aller directement doser, étudier, en fait faire une étude moléculaire du gène MAN2B1.
Eh bien, merci mille fois, docteur Héron, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est l'alpha-manosidose. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.